know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant. Attention, le sujet du jour concerne le consentement. Le témoignage qui va suivre peut potentiellement déclencher des réactions traumatiques chez les personnes survivantes de violences sexuelles et d'abus. Prenez soin de vous avant tout.
Charbons Ardents.
Je n'ai jamais aimé mon corps. On ne m'a pas appris à l'apprécier, à le comprendre ou à l'honorer. J'en ai détesté les moindres recoins, les moindres replis, les moindres imperfections. Il m'a pourtant bien servi, ce corps. Il m'a emmenée au bout du monde, m'a permis de sentir les vagues sur ma peau, les briques rouges contre mes doigts, les caresses tendres et chaudes qui font frissonner, les mains de mes aimés au creux des miennes, le sol brûlant contre mes pieds. Il a encaissé les coups, il a survécu aux chutes, il a porté des bleus multiples sans broncher, il a digéré du chocolat par kilo. Il a dansé, porté, serré, nagé, volé, sauté, plongé, couru, tremblé, bouilli, sué, exulté, joui. Il a été embrassé, bousculé, chatouillé, griffé, léché, pincé, enlacé. Et une nuit, il a été violé. Violé par une personne qu'il avait caressé, embrassé, enlacé. Et aujourd'hui, il porte la cicatrice de cette nuit, de ce geste bref et infini, lourd et décisif. Une cicatrice que mon esprit a mis tant de temps à regarder, à accepter et n'arrive toujours pas à comprendre. Il y a 7 ans, j'ai rencontré Julien. On ne s'entendait pas, mais l'imaginant le Harry de ma Sally, je me suis laissée emporter dans cette relation qui s'annonçait mordante et vaguement familière. C'est très vite que les cloisons se sont hissées autour de moi, mais trop tard que j'en ai perçu les barreaux. Je ne pouvais plus voir mes amis, plus sortir, plus être drôle, plus être malade, plus être reposée, plus être absente, plus être là, plus être belle, plus être laide, plus être. Il était à la fois mon plus fidèle admirateur et mon plus sévère critique. J'ai vite commencé à dépendre de son jugement, de son autorisation, de ses éloges et de ses accusations. Et comme un poison, il s'est insinué dans chaque aspect de ma vie, chaque souffle, chaque geste, chaque pensée. Je l'ai trompé, une lâche et triste tentative de m'échapper. La culpabilité m'a rattrapée et en 2 semaines, je retournais à lui et lui à moi. L'étau pouvait se resserrer sans plus aucune résistance de ma part. Après tout, ne méritais-je pas d'être puni? 2 ans de manipulation, de nuits trop courtes et d'étouffement. 2 ans à me battre, pensant le faire pour cette relation alors que je le faisais pour le fuir. J'ai finalement baissé les bras, et comme une photo qu'on laisse trop longtemps au soleil, je me sentais disparaître, m'évaporer, lâcher prise. Je ne lui disais plus « je t'aime », je ne le regardais plus, je ne le touchais plus. Une fois, je l'ai surpris à se masturber à côté de moi dans le lit, en pleine nuit. J'étais choquée, et alors que je m'attendais à ce qu'il soit embarrassé, il m'a tendu son téléphone, me montrant une femme nue, et déclarant avec défiance « regarde, c'est sur elle que je me branle, t'as vu ?» puis reprenant de plus belle. Et là, allongée en position fœtale dans le lit, dos à lui, fixant l'obscurité, j'ai commencé à me demander ce que je ressentais. Quel était ce feu qui rongeait mon estomac, cette étreinte autour de ma gorge, ces tremblements dans tous mes membres? Et qu'est-ce qui le provoquait? Était-ce justifié? Le pauvre, on n'avait pas fait l'amour depuis un moment, c'est vrai. Il fallait que je comprenne sa frustration. À cette période-là, je devais me coucher tôt pour aller travailler aux aurores. Je restais la plupart du temps chez Julien, et cette nuit-là ne faisait pas exception. Il restait généralement dans son salon, tandis que je peinais à m'endormir dans sa chambre. Cette fois, il est venu me rejoindre assez rapidement, me voir de dos, et apparemment endormi ne l'a pas découragé, mais j'étais bien réveillée. Il s'est rapproché dans mon dos, et sans un mot, sans un autre geste, il a inséré son pénis dans mon vagin et a commencé à me baiser. Mon esprit était éteint depuis longtemps, mais comme un bouclier, mon corps, cet allié que je n'écoutais plus, résistait. Je tremblais comme une feuille et pleurais à chaudes larmes. Malgré ça, il a continué, et continué, et continué. Il a joui, s'est retiré, puis a quitté la chambre sans un mot. Là, sonné et abruti, je suis restée immobile, sur le côté. Le besoin habituel de me laver après son contact me semblait une tâche insurmontable, alors j'ai attendu que le sommeil vienne et efface tout. Les jours se sont succédés, la vie a repris son cours, tout était oublié. Après tout, s'était-il vraiment passé quoi que ce soit? Un jour, rassemblant tout mon courage, je l'ai quitté, et puis des semaines, des mois, des années sont passées. Le souvenir, au lieu de disparaître, a pris de plus en plus de place, et aujourd'hui il vit à mes côtés et nourrit mes angoisses, ma peur de certains gestes, ma haine de certains autres. Il dicte mes relations et hante mes nuits. Il est de ces souvenirs qui n'ont pas de visage, mais qui sont tranchants comme une lame, des souvenirs qui vivent en nous, au-delà de l'inconscient, dans chaque veine, sous chaque millimètre de peau. Une cicatrice irréversible que j'apprends chaque jour à accepter, à apprivoiser, à porter comme un bouclier, et mon corps à aimer. Dans cette rubrique de Tout feu, toute flamme, on décortique avec vous des éléments de théorie philosophique, sociologique et plein d'autres mots en hic pour en mettre plein la vue aux relous qui vous cassent les oreilles. Et avant de commencer, un petit manifeste en guise de piqûre de rappel sur le consentement.
Les vidéos prises de nous quand on est en levrette et envoyées sur des groupes WhatsApp de vos potes de rugby, non, nous ne sommes pas consentantes.
Les nudes qu'on vous envoie et que vous nous volez en croyant que c'est romantique et que vous montrez ensuite aux copains pour vous vanter ou nous évaluer, non. Nous ne sommes pas consentantes.
Vous écoutez vanter vos exploits sexuels passés, avec nous ou avec d'autres, à nous ou à vos potes quand on est à côté, savoir que vous matez des films de cul, parce que les mecs sont comme ça et qu'on doit serrer les dents et accepter, sinon on est frigide. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Sortir vos couilles pour un quart d'heure kiwi, montrer vos bites en soirée, en dessiner sur tous les murs ou les envoyer sur nos smartphones, non, nous ne sommes pas consentantes.
Nous imposer vos films de beauf, vos blagues miso, on peut plus rire de rien, vos chansons de rap qui font l'apologie du viol, de la violence conjugale, du harcèlement. Non mais attends, on peut plus rien dire, ils le pensent pas, vous faites chier avec votre cancel culture. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Nous regarder les fesses, les seins, les jambes, le ventre, nous suivre dans la rue, nous siffler comme des clébards, nous faire des gestes lubriques, nous faire des compliments quand on ne vous a pas sonné, et plus du tout quand vous avez réussi à pécho, puis des insultes quand on vous ignore. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Vous frottez contre nous dans les transports bondés, vous frottez l'entrejambe en nous mettant dehors, vous branlez en pensant à nous plus tard. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Vous retirez pendant l'acte pour enlever la capote ou refusez de la mettre et insister pour rentrer quand même en mettant en avant l'effet qu'on vous fait et en vous croyant romantique. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Poussez à des pratiques sexuelles, poussez votre bite au fond de nos gorges, poussez à la sodomie une fille réticente, jouir dedans, c'était trop bon. J'ai pas pu me retenir.
Faire du chantage à l'adultère pour imposer un plan à trois, nous mettre en concurrence avec vos ex ou vos pornos pour souligner que vous ne serez pas satisfaite tant qu'on n'aura pas accepté de le faire. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Décider de ce qui est bon pour nous à notre place, qui on doit voir, ce qu'on doit porter, manger, nous envoyer du fric, nous rendre des services, nous raccompagner, nous sauver et attendre autre chose en retour. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Nous tromper, nous mentir, nous voler, nous insulter, nous tirer les cheveux pendant l'acte, nous gifler, nous fesser si on ne vous l'a pas demandé sous prétexte que vous l'avez vu dans vos films de boules. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Nous violer quand on dort, sous prétexte qu'on est en couple. Nous violer quand on est saoul, drogué, affaibli, dans un état second, sous prétexte qu'on n'a pas dit non. Nous violer quand on est plus jeune que vous, ou vos employés, ou vos élèves, ou vos filles, vos petites filles, vos nièces, vos cousines. Nous violer quand on est sorti courir dans une zone dangereuse. Nous violer parce qu'on portait une jupe qui vous a fait croire qu'on était dispo. Nous violer, entrer dans nos corps comme vous iriez à la boulangerie. Nous pénétrer de force dans nos chairs, dans nos êtres, et laisser une marque de souillure à vie. Non, nous ne sommes pas consentantes.
Quand on le sera, vous le saurez, on le dira, vous l'entendrez. Surtout si vous n'êtes pas déjà en train de nous bâillonner, de nous hurler « ferme ta gueule, sale pute », de nous écraser la tête dans l'oreiller, de nous assommer, d'attendre qu'on soit en train de pioncer, de regarder nos lèvres bouger sans écouter ce qu'elles disent, trop occupés à penser à nos chattes pour faire fonctionner les tympans, de nous targuer d'être qu'une bande de pipelettes pour s'assurer qu'on apprendra à se taire.
Ça s'appelle OUI. Il y a trois lettres, autant que de X dans vos films préférés, mais une de moins que dans BIT, pute et sus. Et ceux-là, vous savez les lire, les épeler, voire les taper à une main sur votre clavier quand l'autre est occupé. Ça s'appelle OUI et ça s'appelle le consentement.
Et gardez bien en tête un truc, qui ne dit mot, refuse.
Moi je vous le dis, qui connaît les filles, quand elles disent non, plus elles disent non, plus ça veut dire oui.
Alors avant d'ouvrir les hostilités, et dans un souci d'éducation et de culture, Mareuil, peux-tu éclairer ma lanterne ? C'est quoi le quart d'heure kiwi ? What is the quart d'heure kiwi ?
Well, chat, the Cardo Kiwi est un élément essentiel de la culture rugbystique et masculine occidentale. Ça consiste tout simplement, de préférence quand t'es pompette et avec des amis, à sortir délicatement tes bourses de ta braguette et de parler ensuite à des gens comme si de rien n'était. En attendant qu'ils remarquent, voire la plupart du temps qu'ils remarquent pas, parce qu'en fait on passe pas notre temps à regarder les braguettes des mecs.
Je voulais pas savoir en fait, je crois que j'ai un peu vomi dans ma bouche.
Ah désolé ma gaufre, j'aurais dû checker ton consentement avant. Ce qui nous amène d'ailleurs au sujet d'aujourd'hui.
Subtile transition. Pour parler consentement, on va poser rapidement les bases avec Manon Garcia, philosophe morale et enseignante à Yale University, rien que ça, qui évoque le sujet dans La conversation des sexes, philosophie du consentement. On vous y renvoie parce que sur le sujet, c'est ultra complet et édifiant.
Alors en gros, ce que Garcia explique, c'est que rien que le terme de consentement lui-même pose souci. D'abord parce que c'est un peu un gros fourre-tout que l'idée du sexe sans consentement, on y met un peu tout et n'importe quoi, mais généralement, dans la tête des gens, ce qu'on y associe, c'est forcément l'idée de viol. Or déjà, le viol, c'est beaucoup plus compliqué que l'idée du sexe sans consentement. Pour illustrer ça, elle fait elle-même un parallèle. Elle dit que concrètement, c'est comme si on disait qu'un vol, c'est un don sans consentement. Voilà. T'hésitais à donner, en fait, au voleur, et puis bon, t'as pas vraiment donné ton consentement. Donc on voit bien dans le parallèle que le viol, c'est pas juste une absence de quelque chose, c'est une transgression, c'est une agression, et c'est entièrement surtout la faute du violeur.
Et selon elle, il y a un continuum entre le viol brutal à une extrémité et la relation sexuelle parfaite et harmonieuse entre deux êtres en parfaite connexion de l'autre. Bah, disons que la majorité des gens ne sont pas dans ces extrémités.
Heureusement d'ailleurs, pour l'une d'entre elles en tout cas.
Et que pour autant, c'est pas parce que tu es au milieu que tu consens. Si tu cèdes par fatigue, par lassitude, pour faire plaisir, le consentement, il n'est toujours pas là.
Alors elle parle à cet égard du sexe par politesse. Je sais pas pour toi, chat, mais moi j'ai déjà donné.
Le sexe par politesse, oui. Par fatigue, par... oui.
Elle souligne que quand on parle aux meufs hétéros et à certains mecs homos, ça leur dit tout de suite quelque chose. Alors que quand tu parles du sexe par politesse aux mecs hétéros, pas du tout. Ce qu'elle explique très bien aussi, c'est que le consentement, on est en droit de se demander si en fait, de toute façon, c'est possible véritablement dans le système actuel. Parce que comme on éduque tellement les filles à une sexualité qui est contrainte, qui est presque une sexualité au rabais, qui est marquée par la terreur et par des rapports de domination et de force dont nous, on a déjà parlé, et qui sont inscrits dans nos habitudes, dans nos imaginaires, dans nos relations socio-professionnelles, d'ici à ce qu'une meuf arrive à dire pleinement oui pour elle-même, parce qu'elle aura pris le temps de cerner ce qu'elle veut vraiment, qu'elle se sera autorisée à le vouloir sans peur de jugement ni d'agression, bah, y a quelques siècles de lutte qui nous attendent encore, surtout quand on voit la gueule des gargouilles qui sont nommées ministres. Et par ailleurs, d'ici à ce que ce oui soit entendu et accepté sans jugement en face, bah, y a encore d'autres millénaires de lutte qui nous attendent.
Malheureusement, oui. Et pour vous donner une idée d'où vient ce système de pensée et cette conception archi-erronée qu'on a de notre droit à disposer de notre propre corps et pas de celui des autres, on va aussi s'appuyer sur l'ouvrage de Maëlle Bernard qui s'intitule « Histoire du consentement féminin, du silence des siècles à l'âge de la rupture ». Alors en s'inspirant de l'ouvrage de Maëlle Bernard, on vous propose aujourd'hui un panorama historique en mode voyage dans le temps.
Alors pas vraiment un voyage touristique, hein, en mode les découvreurs.
Non. Mais c'est toujours intéressant de voir comment on hérite de siècles ultra schlag qui nous pèsent sur les épaules.
Chien pendant que l'autre chiale, d'ailleurs pourquoi tu chiales? T'as plus de Mac donc je vais te l'enfoncer profond jusqu'aux cordes vocales, elle stresse. Devient toute blanche comme tes fesses, a peur que je l'agresse en détresse.
Merci pour ce moment de poésie mensuelle. L'idée ici c'est de montrer comment des siècles et des siècles,
amen,
de manière multiple, d'ignorer le consentement des femmes nous ont amené aujourd'hui à cette fameuse culture du viol. Donc c'est une culture du viol qui vient de millénaires de pensée. Et à ce que ce soit si difficile pour les hommes de comprendre que non, on n'est pas consentante par défaut. Et que pour les femmes, c'est à elles de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps.
Alors on précise qu'on parle aujourd'hui en termes binaires et essentialisant femmes-hommes, et donc qu'on associe les parties génitales considérées à l'époque comme représentatives de ces sexes. Malheureusement, c'est difficile d'étudier l'histoire sans utiliser ce prisme binaire. Pour donner une définition du consentement, on va citer la philosophe Geneviève Fraisse qui dit « Il est implicite, muet et, entre mimique et silence, les interprétations vont bon train ou inversement, il peut être acté ou prouvé par des marques et des signes, des gestes et des mots. »
Alors on va commencer avec l'Antiquité. Je vais sans doute te surprendre, mais à l'Antiquité, le consentement, ça n'existe pas, chat.
Oh bon ?
Ce que nous on appelle le viol aujourd'hui, à l'époque ça regroupe autant la violence physique, sexuelle que l'adultère en fait. L'idée c'est que la femme est propriété de son père et de son mari, dans l'ordre chronologique. Et le vrai problème du viol, c'est pas la souffrance de la femme, c'est qu'on a abîmé ton jouet. Il y a bel et bien des condamnations de violeurs, d'ailleurs à Rome ils perdent le statut de citoyen, mais en fait ils sont jugés plus pour cette atteinte à un objet, une propriété privée qu'autre chose. Le plus important en Grèce ou en Rome antique, c'est de punir au nom du mari, plutôt que de protéger les victimes ou de leur offrir réparation. Et histoire de rajouter une cerise sur ce gâteau de merde, seules les femmes mariées, donc les citoyennes, peuvent éventuellement obtenir réparation. Si t'es pas la propriété d'un homme, à savoir si t'es étrangère, ou comme on appelle ça, métèque, ou si t'es esclave ou prostituée, on s'en fout.
Et comme on a parlé dans l'émission précédente, l'obsession de l'époque, c'est la propriété, sa transmission, et donc de s'assurer que le bébé que porte votre femme est bien le vôtre. Il y a pire.
Merde, c'est possible.
Et oui, Mareuil. À Rome, la femme adultère est considérée comme responsable, même si elle n'est pas consentante. La violence subie n'est plus synonyme de passivité et donc d'absence de responsabilité. C'est à la victime de prouver qu'elle n'est pas complice.
Alors sur le sujet, première minute mythe, serait dommage de pas en parler puisqu'on est en Grèce antique, on va parler un petit peu de Perséphone. Perséphone, c'est la fille de Déméter, déesse de la nature, et un beau jour...
Ou était-ce une nuit ?
Le roi des enfers Hadès jette son dévolu sur elle, ouvre un trou dans la terre, l'attrape et puis concrètement la kidnappe. Donc c'est le fameux et très célèbre rapt de Perséphone. Ensuite, bon, ils vont mettre en place une garde partagée qui va permettre que Perséphone remonte 6 mois de l'année sur Terre, mais bon, son consentement n'est absolument pas dans la balance. Hein. C'est juste parce que Déméter est triste. Ici, ce qui est symptomatique, c'est que cette idée du rapt fait partie dans beaucoup, beaucoup de civilisations, de rites de parade nuptiale. C'était assez commun d'enlever la femme et de l'épouser sans demander ni son consentement ni celui de sa famille. Donc c'est une longue histoire culturelle qui nous a amené à croire que c'était sexy, romantique, glamour d'être kidnappé.
Il n'y a qu'à voir le film 365 jours où un mafieux séquestre une femme en lui laissant 1 an pour tomber raide dingue de lui. Le film date de 2020, après Jésus-Christ.
Et oui, et puis c'est des films qui ont du succès, on trouve ça romantique, un désir aussi ébouriffant. L'idée c'est que les jeunes filles doivent être domptées, l'acte sexuel est là pour les apprivoiser, ça les conduira ensuite au mariage. Si les filles sont prises par leur mari, c'est qu'elles ont été données par leur père.
Donc le mariage est une institution fondée sur la violence des hommes sur les femmes, dès sa conclusion, mais également tout au long de sa duration. CF, le viol conjugal, pénalisé en France notamment seulement depuis les années 90, et oui.
Alors, on va faire maintenant un petit saut dans le temps pour arriver au temps des dents pourries et des ceintures de chasteté. J'ai nommé le Moyen-Âge, autrement dit l'équivalent en maturité de la moyenne section pour notre belle civilisation occidentale.
Merci la gueuse, tu es un laidron mais tu es bien bonne.
Au bas Moyen-Âge, la finamor ou littérature courtoise véhicule une fausse idée des relations femmes-hommes. Dans l'imaginaire arthurien, le rôle du chevalier, c'est d'être courtois et donc de protéger les pucelles.
Mais seulement de bonne famille, puisque les autres peuvent aller se faire cuire un œuf.
Les condamnations ne surviennent cependant qu'en cas de flag, et si la jeune fille était vierge.
Changement de point de vue au XIIIe siècle, forniquer est un péché. À ce moment-là, les victimes de viol qui étaient juste invisibles deviennent carrément coupables, qu'elles soient consentantes ou non. Bon, victimes de viol, bah, ça veut dire qu'elles sont pas consentantes hein, de toute façon. Là, ça devient leur responsabilité de se tenir à carreau et de gérer leur ceinture de chasteté pendant que monsieur va trouer du sarrasin. On assimile les femmes au péché, à la luxure, on les accuse d'avoir toujours envie, de rêver de marchés entiers de pénis géants. True story, c'est un fabliau qui s'appelle le marché aux vies, V-I-T-S, ça veut dire le zizi en ancien français. C'est une femme qui rêve qu'elle est dans un marché et qu'il n'y a que des pénis, elle essaie d'en trouver un à son goût. Il n'y a qu'à voir comment Jean-Jacques Hano présente par exemple un quasi-viol de moine par la simplette du village dans son film Le Nom de la Rose. Là, on a vraiment une figure de femme avec un appétit sexuel dément, un pauvre moine qui se fait renverser dans le foin, parce que c'est bien connu que les femmes se jettent au visage des hommes depuis la nuit des temps, surtout s'ils ont une coiffure au bol et une robe en sac à patates.
D'ailleurs, si vous lisez le livre de Maëlle Bernard, elle a cité pas mal de cas qu'elle a retrouvés dans les archives nationales, et on voit qu'il y a pas mal effectivement de cas au Moyen-Âge où la femme est présentée comme une furie prête à se jeter sur une dizaine d'hommes et à coucher avec 4 fois, 6 fois, 10 fois.
Une grosse info. Conclusion, si une femme résiste, en fait, c'est pour faire semblant et on se serre les bourses entre mecs, surtout hein, le groupe tait le viol pour éviter le châtiment.
Et oui, puisque c'est péché. Au XIVe siècle, le viol est notamment celui des vierges, considéré comme pure et innocente, la virginité étant valorisée par l'Église chrétienne, fait partie des punitions de l'ennemi. Et oui, on est en plein dans la guerre de 100 ans. Comme à l'Antiquité, le corps de la femme appartient à l'homme auquel elle est rattachée, le père, le mari, mais aussi le vainqueur d'un duel ou le preneur d'otages suite à une défaite militaire, le viol fait partie des droits de guerre.
Sympa, t'es dans un pays en guerre et en plus tu risques de te faire violer.
J'adore. Alors, au XIVe siècle, il y a de moins en moins de condamnations car le viol est établi selon l'honneur de la femme. Donc si on est une vierge sage, une femme mariée fidèle ou une veuve chaste, effectivement, on a moins de risques de se faire violer. Mais il se trouve que les violeurs choisissent leurs victimes selon leurs mœurs pour ne pas être condamnés.
On peut ajouter que les victimes de viol font souvent partie des accusés de sorcellerie. Donc c'est pratique quand on veut échapper à sa punition. On accuse sa victime d'être sorcière et paf, elle finit au bûcher.
Au XVe siècle, les textes de loi condamnent le viol, mais en pratique, les peines sont rares. Les cas de viol représentent seulement 3% des condamnations, et uniquement des jeunes filles entre 8 et 12 ans. Après cela, elles sont soupçonnées d'être consentantes, comme on l'a dit plus haut, puisqu'on consent en permanence, et les affaires se règlent sous le manteau.
Quand elles se règlent d'ailleurs, parce que souvent elles se règlent pas.
Et puis comme l'Église veut démarier vierge et qu'on ne peut pas vérifier que les hommes le sont, la charge morale ne pèse que sur les filles et ça donne des scènes atroces qui existent encore aujourd'hui, de nuits de noces publiques et de draps avec taches rouges affichées aux tourelles des châteaux.
C'était un grand soudard de Flandre, il sentait le cuir et le vin. Il n'a pas demandé ma main, il s'est contenté de me prendre. Il n'avait pas ôté son sabre ni ses pistolets d'assassin, qu'il embrassait déjà mon sein comme un ogre se met à table. Ma mère surtout n'attendait que je me repente. C'est vrai, je suis déshonorée, déshonorée mais si contente.
On voit que là, on est vraiment sur des siècles qui sont dans une lourde négation de la possibilité même du consentement de toutes ces femmes nymphos. Là, on saute au XVIIIe siècle, c'est quand même une sale période. Le XVIIIe siècle, c'est une époque où on a perdu pas mal de termes féminisés pour tout ce qui est métier ou titres sociaux. Un exemple édifiant, le terme de garce, qui est donc au départ un équivalent féminin de garçon, tout simplement, et qui a pour définition individu émancipé et sans tutelle, devient synonyme de femme de mauvaise vie, c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand on voit ce glissement de sens, on comprend que la simple idée d'être émancipée pour une femme, de faire ses propres choix, d'être consentante à ce qui se passe au niveau de son corps et de son destin, c'est inconcevable au XVIIIe. Or, le XVIIIe, c'est quand même considéré comme le siècle des Lumières, de la quête de liberté, de la Révolution. On y fait encore beaucoup référence aujourd'hui pour tout l'héritage culturel. Donc, avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge, car on n'a toujours pas retrouvé son statut d'antan.
Alors, ça bouge un peu, hein, mais vraiment de manière microscopique, pourtant, à l'époque, au sens où on commence à distinguer le viol du rapt et de l'adultère.
Joie, ça n'aurait pris que 2000 ans et des brouettes.
Des brouettes de fumier. Mais même si la victime de viol se distingue de celle de rapt ou d'adultère, pour que la justice écoute une victime, il faut qu'elle ait été chaste et qu'elle vienne d'une certaine catégorie sociale, comme on l'a dit encore.
Finalement, pas d'évolution depuis le Moyen-Âge.
C'est terrible. Si les femmes ne résistent pas et qu'elles ne résistent pas vaillamment, c'est qu'elles consentent. Pire, elles doivent prouver qu'elles ont bien crié et résisté du début à la fin de l'acte. Toujours cette idée d'érotisation de la résistance féminine et donc de consentement perpétuel. Comme aujourd'hui, la tenue de la femme et les lieux qu'elle fréquente peuvent plaider en sa faveur ou en sa défaveur surtout. Dire oui à un, c'est dire oui à tous, enfin surtout hors mariage.
Le désir féminin, c'est super mal vu, ça passe pour une faiblesse, les femmes doivent le dompter, elles doivent le combattre selon la médecine. On a parlé de la puissance de l'utérus, genre what the fuck, du tempérament froid et humide qui normalement est censé rendre les femmes plus faibles que les hommes, les rendre aussi frigides, alors que les hommes ont un climat chaud et sec.
Ben voyons. Mm-hmm.
Donc ils sont de ce fait plus forts et droits dans leurs actions. Pour une femme, le fait d'émettre le désir d'une relation sexuelle, ça pouvait être perçu comme une faiblesse, voire même pire, au 19e siècle, les femmes qui ont une libido, elles sont étiquetées hystériques, nymphomanes, qui sont considérées comme des maladies. Il n'y a pas d'équivalent masculin dans le langage courant d'ailleurs de nymphomane, on le notera. Et ça, c'est selon les pionniers de la psychanalyse, comme notre meilleur pote, R. Dr. Freud, un type hyper recommandable.
Il avait encore des problèmes avec sa maman.
Et avec sa fille.
Même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer.
Même pas besoin de se déshabiller maintenant.
Du coup, spoiler alert, ça s'améliore pas après la Révolution française. On assimile sexe et brutalité, donc le rapport se réduit à un viol Et en plus, on enseigne aux femmes que ça doit les dégoûter.
Bon, vu la gueule du truc, c'est pas difficile. Les premières améliorations au 20e, c'est encourager les mecs à l'abstinence plutôt qu'au viol.
Bon, c'est mieux que rien, mais à quand une sexualité consentie et épanouissante pour les partenaires impliqués?
Et puis on se met à donner un petit peu de cours d'éducation sexuelle, mais c'est toujours focalisé sur comment faire des bébés et pas comment on prend et fait prendre son pied. Pourtant, on voit bien aujourd'hui qu'on n'est toujours pas sorti en fait de ces schémas où résister, c'est excitant pour le partenaire, où circuler, s'habiller, vivre sa sexualité librement, ce serait synonyme d'aguicher ou de provoquer le viol, et où la responsabilité de se protéger du viol revient encore et toujours aux filles. Dans ce contexte-là, l'expression du désir masculin, elle est toujours omniprésente, alors que celle du désir féminin continue à mettre mal à l'aise. Et puis les scénarios dans le porno, ils reposent énormément sur la transgression du consentement, soit c'est des viols qui sont plus ou moins mis en scène, soit c'est de l'exhibition absolument non consentie, ou alors des relations avec abus de pouvoir entre des vieux et des jeunes, ou des partenaires qui abusent d'une position, du type des profs, des coachs, des patrons, enfin bon, la liste est longue.
Donc soit on ne sait pas demander le consentement, soit on ne souhaite pas en tenir compte en fait. La banalisation des violences sexuelles est toujours présente. Il est difficile d'effacer autant de siècles de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol.
Réveille-toi, réveille-toi. Je veux que ce coït fasse que tu ressuscites et qu'il suscite en toi des instants de velours. Réveille-toi, je ne suis pas venu caresser une légende, mais un être dont la seule beauté étoufferait l'éclair de l'orage, les épées du soleil. Réveille-toi, je veux que mon envie dépoussière ton hymen à grands coups de tendresse, qu'il oublie sur ta peau l'ombre de mes désirs. Réveille-toi, j'entame un long chorus de liquide vagabond sur ta chère musique. Non, 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 je ne crois plus en ce coma éternel, tombé comme un satyre, détonnant le plaisir que tu avais de vivre. Réveille-toi, écarte tes paupières, je veux revoir tes pleurs me parler d'une joie que nous avons perdue. Réveille-toi.
Sympa cette petite chanson sur le viol pendant le coma, ce qui nous amène au conte de fées du jour, chat.
Eh oui, aujourd'hui on va parler de Blanche-Neige et de la Belle au bois dormant. Encore spoiler alert, elle faisait dodo! La prochaine fois qu'on vous voit piquer un roupillon, on fera comme vous, on sortira l'attirail à pegging. Et roulez jeunesse!
Et pour le mythe du jour, on va parler de Cassandre, ou comment quand t'as d'abord dit oui, bah t'as quand même le droit de dire non ensuite. Après tout, ne dit-on pas qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est aussi sur les conséquences de dire non à un mec de pouvoir. Cassandre, c'est cette jeune prêtresse d'Apollon qui vit à Troie. Elle est la fille du roi Priam. Et son rêve dans la vie, c'est de devenir prophétesse. Une nuit où elle dort dans le temple, Apollon, qui a jeté son dévolu sur elle, se pointe et lui demande d'avoir des relations sexuelles avec lui. Elle dit non, il lui dit « bah écoute, viens, je t'offre le don de prophétie ». Donc ça la tente quand même un peu. Elle commence à dire oui, il lui donne le don de prophétie et là, elle voit ce qui va lui arriver. À ce moment-là, elle panique et là, elle dit non. Et donc, il lui attrape la tête et il lui crache dans la bouche et il lui dit « plus jamais aucun de tes augures ne sera entendu ». Toutes les prophéties que tu proféreras, personne ne les croira. Donc là, on est vraiment dans un type bien spécifique de déni de consentement. Elle lui a dit non. Ensuite, il essaye de monnayer le sexe. Donc à partir du moment où vous essayez de monnayer le sexe, en fait, de toute façon, là, c'est terminé. Il n'y a pas de consentement éclairé, il n'y a pas de consentement plein.
N'est-ce pas, Gérald ?
Ensuite, quand elle prend conscience de ce qu'il attend, elle se dit « bah en fait, non ». Si elle avait dit oui, son consentement aurait été éclairé, elle dit non, et ben il l'a puni. Là, on est vraiment sur un déni de consentement en trois temps absolument ravissant. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde voue un culte absolu à Apollon. C'est le dieu de la poésie, c'est le dieu du théâtre, il est sexy, il tire le char du soleil. Louis XIV se compare à lui, il y a des statues de lui un peu partout dans le château de Versailles. Et puis un certain président a voulu faire mieux en se comparant à Jupiter, enfin genre toujours plus haut, toujours plus loin. C'est assez intéressant de voir qu'on a quand même un certain nombre de rôles modèles totalement putrides.
Des sacs à merde.
Action !
Une goutte d'eau dans l'océan. Dans cette rubrique, on déconstruit point par point un objet culturel problématique, mais qui a pourtant du succès. Et voilà pourquoi ça ne devrait pas.
Je crois au coup de foudre. Si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck.
Je crois qu'il me plaît, en fait.
Chin-chin !
C'est abusé ?
C'est parfait. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finira par comprendre que je ne suis pas une option. Je suis le bon. L'amour, c'est compliqué.
Aujourd'hui, on va parler de You, la série à succès Netflix, qui détrône en un seul épisode des chefs-d'œuvre comme Le jeu de la dame au niveau du nombre de visionnages. Et alors, You, ça parle de quoi ?
Eh bien, chat, You, c'est l'histoire d'un gentil et joli bibliothécaire de New York City qui s'appelle Joe Goldberg. Dans la première saison, sur laquelle on va se concentrer pour pas trop spoiler toute la série non plus.
Même si l'idée, c'est que vous perdiez pas votre vie à regarder un tel ramassis de conneries.
Donc dans cette saison 1, ils sont très amoureux d'une aspirante poétesse au doux nom de Guinevere, mais qui se fait appeler par son nom de famille Beck. Donc beaucoup moins joli, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il l'aime de tout son grand cœur pur et qu'elle ne sait pas faire de bons choix pour elle-même, il la stalke sans répit.
En même temps, c'est de sa faute à elle. Son appart au rez-de-chaussée est doté de grandes fenêtres et elle est tellement addicte au réseau qu'elle poste même des photos de ses coquillettes aux gruyères.
Après l'avoir cerné, il commence à tuer allègrement son petit ami hipster toxique et sa meilleure amie lesbienne refoulée toxique. Et comme ça, après, il l'aura pour lui tout seul. C'est-tu pas beau, ça ? Si c'est pas de l'amour, je veux bien me couper une couille, chat.
Heureusement que t'en as pas. Alors non, ça, l'amour, ce n'est pas ça. Déso, pas déso. Je le précise parce qu'il y a clairement des gens qui le pensent, le disent sur les réseaux et ont l'air de croire que dans son décor de comédie romantique, avec ses acteries, sa physique de comédie romantique et son scénario autour d'une histoire d'amour présentée comme passionnément romantique, cette série serait une comédie romantique.
Ah bon ?
You, c'est l'échec d'une soi-disant parodie de discours incel, mais que tout le monde prend au premier degré. Alors pauvres créateurs et créatrices de la série que personne n'a compris, on va vachement les plaindre de se faire autant de fric sans détromper personne sur les dangers réels de cette bouse de série.
Effectivement, parce que c'est quoi le problème dans You, qui est quand même une série hyper problématique. Alors pour tous les lycées, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale, mais on va essayer de faire simple. Déjà, pour commencer, tout contribue à nous faire aimer ce héros problématique, qu'on ne devrait même pas appeler héros, au lieu de nous amener à voir à quel point il tape dans les boîtes. Ils ont commencé par choisir un acteur qui est adoré, qui est vénéré pour un rôle qu'il a tenu dans une série qui s'appelait Gossip Girl. Et si on en croit les tweets à son sujet, il est jugé comme doté d'un physique ravageur. Ajoutons à ça qu'il bosse dans une magnifique librairie tout en boiserie de New York, qu'il te cite Sartre et le mythe de Sisyphe pour parler de couches de bébé, il est super profond en fait, et qu'il a eu une enfance trop dure, sniff, sniff, ouin, ouin. Ce qui fait que maintenant, il se donne corps et âme pour aider son pauvre petit voisin fan de livres dont la maman fait de mauvais choix en sortant avec un mec méchant et super violent. Alors on va noter au passage que toutes les meufs de la série ont, ouvrez les guillemets, besoin d'aide, ne savent pas choisir ni leur mec, ni leurs amis, ni leur budget, ou des rideaux pour leurs grandes fenêtres sur rue. Et heureusement qu'il est là pour les aider. Hein. Par exemple, il prend son petit voisin avec lui dans la librairie, il lui parle du concept de chevalerie, il se voit lui-même comme chevaleresque, et il met sur le même plan le fait d'aider un pauvre gamin dans le besoin et de couper sa petite amie de tous ses potes et de sa vie, ce sur quoi en plus la série lui donne totalement raison.
Alors on avait dit pas de spoiler, mais ça ne va pas s'arranger dans la saison 3. Dans la saison 2, il rencontre son équivalent féminin, une meuf qui a la gâchette facile quand c'est justifié par l'amour, le grand, avec un grand A, de plaisir ou de surprise de quand tu découvres la boîte à trophées de ton amant psychopathe. Sauf que, quand c'est lui, c'est cute et kawaii. Mais quand c'est elle, bah c'est pas normal, cette meuf est un monstre et au secours, à l'aide ! Elle s'appelle très subtilement Love.
Oui, c'est une série très subtile sur la recherche du love.
Et il finit par accepter de rester avec elle uniquement parce qu'elle lui annonce être enceinte de lui et qu'il espère pouvoir sauver le lardon des griffes de cette médée moderne.
Tout en continuant à se branler sur la première meuf qui passe, sa voisine en l'occurrence.
Il espérait avoir une fille, pas creepy du tout, mais quand il apprend que c'est un garçon, il est super dégoûté. Le mec n'a pas de problème, c'est bien.
La série est culture du viol à balles et à tous les niveaux. Donc ça commence par la stigmatisation de la meuf qui fait la même chose que le héros, hein, ça le montre bien. Donc il y a deux poids deux mesures, quand c'est lui c'est chou et quand c'est elle c'est grave. Là on pourrait en fait être dans une série où on se situe dans la tête d'un incel pour voir le monde à travers ses yeux de tordu et en arriver à le détester, mais non. L'incel c'est pas vraiment le personnage, en fait c'est le réalisateur parce que tout reflète une vision d'incel. La meilleure amie est une connasse, c'est une lesbienne amoureuse de l'héroïne mais elle est pas amoureuse de manière saine, elle est de manière ultra toxique. Tous les autres hommes sont de riches hipsters, trous de cul. Et le seul qui souffre et qui subit du mépris social, le rejet des femmes et qui sait mieux pour elle ce qui est bon pour elle, c'est Joe, le parfait prototype de poire.
Ah bah c'est quoi poire exactement ?
Alors poire chat, si tu ne le sais pas, c'est ce mec tout gentil et tout mignon qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi et qui recueille tes confidences parce qu'au fond il espère qu'un jour tu prendras enfin les bonnes décisions guidées par lui et que tu coucheras avec lui. En attendant, il reste dans le coin, il te surveille et il te juge en faisant des petites piques et en étant frustré du gland. Poire croit savoir, mais en fait il sait pas. Or dans cette série, il a toujours raison. Dans cette série qui est You, toutes les femmes sont des petites cruches superficielles et pourries gâtées. Il n'y a pas de décalage entre des fantasmes de miso paranoïaque et le monde ridicule et caricatural qui a été mis en place par le scénario. Donc en fait, la série lui donne raison tout le temps. Les personnages qui tuent sont ineptes. Le mec de la meuf qu'il aime bien, la Beck, il est machiavélique. Il a été écrit avec les pieds par un mec qui a pu imaginer dans sa tête tordue ce que ça pouvait être une vie de hipster. Le mec quand même de Beck, je te le cite, dit ouvertement, quand il a trompé sa meuf, « Je l'ai laissé me sucer pour avoir de la coke parce que j'étais stressée. » Genre what the fuck, les mecs les plus toxiques que j'ai croisés, et crois-moi j'en ai croisé pas mal, je prépare en ce moment une encyclopédie en vente dans les meilleures librairies.
Mais pas celle de Joe, ça non, désolé.
C'était aussi les meilleurs menteurs, soyons sérieux, 2 minutes tu trompes ta meuf, tu lui sors pas ce genre de phrase. Donc du hipster cocaïnomane qui vit et respire du quinoa et chie des smoothies à la coriandre à la meilleure pote contrôle fric qui cherche à pouper la carrière de sa meilleure amie et qui prend des photos d'elle dans son sommeil, tout le monde pue du cul. Et donc du coup, quand il arrive sur son blanc destrier, Joe Goldberg, le héros, pour nous assassiner tout ça à coups de pierre, on finit par être content. Et par-dessus le marché, l'insupportable voix off nous empêche de lui échapper, donc ça lui donne une magnifique tribune. Alors on a pu le comparer à Dexter. Pour rappel, le serial killer tuait des violeurs, des pédophiles et sauvait des violés, effectivement, par des moyens assez critiquables. Mais ici, il n'y a rien à voir en fait, parce que le mec, il tue pour son propre compte et pour sa vision totalement tordue de ce que sont les relations amoureuses. Alors évidemment, au passage, c'est affreusement triggering pour des personnes qui ont vécu des violences et des agressions, quelles qu'elles soient. Donc si le but, c'est de dénoncer les agresseurs en spectacularisant les agressions, bah, c'est encore et toujours raté, parce que c'est encore toujours pour vous faire de la thune et c'est encore toujours un manque flagrant d'empathie vis-à-vis des personnes qui ont été agressées.
Si tu crois que cette nuit je vais te laisser tranquille à demi endormi, faut que tu te déshabilles. Allez, réveille-toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux, tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fasse ce que je veux.
Dans la foulée de cette haine des victimes, on nous fournit la boîte à outils du parfait stalker féminicide. Comment suivre une personne sur les réseaux ou dans la rue, comment en assassiner une autre au KLM, et comment vous débarrasser d'un corps. Les créateurs et créatrices ont argué que le personnage fait connerie sur connerie, ce qui est censé être rigolo. Mais il s'en sort quand même. Bah ouais, mais on apprend aussi de ses erreurs en fait. L'ambiance rom-com, c'est une intention satirique, mais qui ne fonctionne pas finalement dans cette série, ou au contraire trop bien, les gens confondent à cause des codes affichés. Dans un contexte de déclin culturel où l'industrie du livre est à l'agonie, ce monsieur prospère par le biais de sa librairie en plein New York, puis s'achète une baraque de rêve pour s'installer en banlieue, vraisemblance totale. L'aspirante poétesse de la saison 1 a un appartement à se damner, bon, sauf ses problèmes de rez-de-chaussée. Le sous-texte, notamment dans la saison 1, les femmes ne devraient pas autant s'afficher, elles risquent de se faire attraper par un stalker et ce serait bien fait. Il y a un slut-shaming des femmes sur les réseaux sociaux qui est hyper intense. Aucun harcèlement du même type sur les youtubeurs qui se dénudent perpétuellement. Beck en prend pour son grade continuellement parce qu'elle s'exhibe ridiculement en lisant des poésies et en faisant du yoga, ce qui en fait au passage le personnage le plus incohérent possible. La haine des femmes et notamment des hipsters transpire à chaque étape. Et si le but était de dénoncer un incel, pourquoi tous les personnages féminins sont-ils si caricaturaux et haïssables ? Nos nuances, nos complexités.
Le seul truc crédible dans cette série, c'est que tous les mecs sont des prédateurs et des trous de cul. Le message, c'est que si une fille vous plaît et ne vous choisit pas, mais préfère un start-upper qui conçoit des sodas bio et aime faire la fête, assommez-le avec un maillet et mettez-le dans une cage en verre. Parce que c'est en réalité ce qu'elles veulent et au pire, vous les butez, ce sera vite vu. Rachel Orman, qui est présidente de Paladin et avocate spécialiste dans le harcèlement et la violence domestique, résume tout ça en 3 coups de cuillère à peau. Je cite « Des émissions telles que You perpétuent le problème du harcèlement et de la violence masculine à l'égard des femmes en le normalisant et en le rendant même glamour ou attrayant. Cela enhardit les auteurs de ces actes et contribue à leur faire croire que les femmes méritent cette violence. Cela signifie également que les femmes sont moins susceptibles de signaler les incidents car elles voient ce comportement présenté comme normal dans la poursuite de l'amour et de la romance. » Et les hommes et les garçons commencent à croire que ce type de poursuite agressive des femmes est attendu et bien accueilli par les femmes. La citation s'arrête là. À noter que Marie-Claire et les fans de cette série soulignent que c'est un plaisir de la voir sortir à l'annonce des fêtes, qu'on a hâte de se pelotonner au chaud sous un plaid pour pouvoir la regarder. Et donc à cet égard, si l'intention c'était vraiment de nous faire peur, bah, c'est totalement raté.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Dans La goutte d'eau qui fait déborder le vase, on vous propose des alternatives culturelles à ces séries pourries qu'on vient de dézinguer, histoire de regarder des trucs qui peuvent vous reconstruire, qui peuvent vous faire du bien ou qui peuvent vous faire prendre conscience des éléments qui vous oppriment. Aujourd'hui, on va pas parler de livres pour une fois, on va parler d'un film, on va parler d'une série et on va parler d'un jeu. Le premier culturel alternatif, c'est Promising Young Woman, qu'on pourrait traduire par Une jeune femme pleine de promesses. Un film d'Emerald Fennell qui est sorti en France cette année avec Carey Mulligan et Bo Burnham. Alors, Chat, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Deux mots.
Non, mais je rêve ! Je vais te dire, ces nanas, elles cherchent les emmerdes. À son âge, elles devraient savoir ce qu'elles risquent, non ?
Je dois m'allonger. Qu'est-ce que tu fais ?
Tout va bien, tu risques rien.
Qu'est-ce que tu fais ?
Hé ! J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Chaque semaine, je vais dans un bar et je fais semblant d'être trop saoule pour tenir debout. Et chaque semaine, un mec gentil vient voir si ça va.
Ça va ?
Tu es jolie comme un cœur. Je suis un mec gentil.
Ah ouais ?
On a des affinités.
D'accord. Comment je m'appelle ? J'ai quel âge ? Pardon, un peu trop dur.
Cassandra, on était ensemble à la fac. T'aurais fait un médecin génial. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je suis partie dans des circonstances inhabituelles. Je suis désolée de pas l'avoir accompagnée.
Il est temps que tu lâches.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Ça va dépendre.
C'est le pire cauchemar pour un mec d'être accusé comme ça.
À ton avis, c'est quoi le pire cauchemar pour une femme ? Toute petite, je voulais déjà être médecin. Ça fait quelque temps que je me dis que j'aimerais peut-être reprendre.
Alors, Promising Young Woman, c'est l'histoire d'une jeune femme dont la meilleure amie s'est suicidée suite à un viol collectif, qui a abandonné ses études, et en fait qui passe une bonne partie de ses soirées et de ses nuits à faire semblant d'être bourrée dans les boîtes de nuit et dans les bars pour se faire ramasser par des gentils garçons qui au début lui proposent de la ramener gentiment, et en fait en voyant son état, qui finalement la ramène chez eux, lui propose de boire encore, et puis tentent leur chance, hein, n'est-ce pas ?
Ouais, enfin c'est plus une chance à ce tarif-là, hein, mais...
Alors attention, parce que le film est quand même assez lourd à regarder, hein, il est très intéressant, mais c'est vrai que moi, j'ai passé mon temps à crier sur ma télé concrètement et à lancer des choses. Mais la façon dont la réalisatrice traite non seulement les cas d'agression sexuelle sur des femmes ivres, et le female gaze qu'on sent en fait dans la réalisation et dans les images est très intéressant.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des moments, au-delà des passages triggering, où c'est quand même jouissif quand elles confrontent ces mecs qui se prennent pour des types gentils à ce qu'ils sont en train de faire réellement, qu'elle nous rappelle aussi que c'est de l'abus. Et elle s'appelle Cassandra, donc c'est une réécriture intéressante de cette pauvre Cassandre, que cette meuf que personne ne veut écouter.
I just want your phone.
I don't know. Where did you get that?
I just wanted to know how did last night end? I've got this thing in my head. Of like this guy.
Because now you're calling it something that I never.
How are you doing?
I'm great as long as I'm around people. I did to, you know, just gather the pieces, any of the pieces.
Et la série dont on va parler maintenant s'appelle I May Destroy You de Michaela Coel.
Cette série, elle a été faite par la créatrice de Chewing Gum, la génialissime Michaela Coel, qui n'a pas reçu de prix, ce qui a un peu déclenché le scandale par rapport à cette série. Elle y interprète le personnage d'Arabella, une jeune autrice qui a connu le succès via Twitter, qui après une soirée assez arrosée se rend compte qu'elle a de drôles de flashbacks, des images d'un homme au-dessus d'elle, qui l'amène progressivement à penser qu'elle a été violée. Probablement parce qu'on lui aurait glissé quelque chose dans son verre et qu'elle s'est retrouvée dans un état d'inconscience. Et la série suit son parcours à la fois de prise de conscience de ça, de plainte et aussi de reconstruction à travers beaucoup de soutien de ses amis et de sororité. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment une série qui traite extraordinairement bien d'un sujet vraiment compliqué. Ça évite beaucoup les triggers, même si malheureusement il y en a sur ce genre de sujet. Ça aborde également les différentes formes de viol qu'on peut rencontrer dans la société, notamment ce qu'on appelle le steel thing, qui est le fait dont on a parlé brièvement au départ, de, pour un homme de retirer sa capote à l'insu de la femme sans la prévenir, enfin de la femme ou de son partenaire de manière plus générale. Il y a également tout un pont de la narration qui se consacre en fait aux deux poids, deux mesures qu'il y a dans le système judiciaire vis-à-vis des viols que subissent les hommes gays. À savoir que si aujourd'hui on commence à être un tout petit peu plus efficace et plus accueillant vis-à-vis de la parole des femmes, c'est toujours très 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 compliqué pour les hommes gays. Donc il y a vraiment aussi tout le discours de responsabilisation de la femme, t'aurais dû surveiller ton verre, qui est mis à distance, qui est complètement détruit. Et il y a des passages extrêmement cathartiques où elle se lève et elle expose son agresseur, et ça, bah, ça fait du bien.
Et il est à noter que c'est une histoire autobiographique et que Michaela Coel raconte un trauma qui lui est arrivé en 2016.
Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots.
Alors je sais pas pour toi Mareuil, mais moi je suis particulièrement friande de jeux de plateau. Et sur le thème du consentement, justement, j'aimerais vous présenter le jeu de rôle du consentement, qui fait partie de la gamme de jeux de société baptisée Sexploration. Il s'agit d'un jeu dont les règles sont simples. Un joueur ou une joueuse pioche une carte sur laquelle est inscrite une question relative à la sexualité, la séduction ou la vie quotidienne. On s'embrasse, tu viens boire un café avec moi. Et en face, un ou une autre joueuse doit lui répondre de façon directe ou pas. Grâce au vocabulaire employé, mais surtout à l'intonation ou au langage corporel, les personnes doivent déterminer s'il y a ou pas consentement. C'est un jeu qui est utilisé par des professeurs, des infirmiers, infirmières, sexologues, etc. dans les plannings familiaux, mais aussi dans les familles et destiné principalement aux ados. Mais ce jeu peut en réalité permettre d'ouvrir la discussion avec des personnes d'un peu tous les âges qui auraient besoin d'être déconstruites sur le consentement dans les rapports de séduction et la sexualité. Sexploration, c'est une gamme de 5 jeux de société lancés il y a un an et écoulés déjà à plus de 8000 exemplaires. Et le jeu de rôle du consentement, c'est le plus demandé. Chaque jeu coûte entre 13 et 25 euros, alors allez-y, foncez, l'un d'eux fera sûrement un heureux ou une heureuse au pied du sapin.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Dans Feu à volonté, on décortique des éléments de langage, de ceux qu'on a à la bouche toute la journée et qui serviront à stigmatiser sans qu'on s'en rende compte, qui viennent coloniser nos pensées et nos dialogues, ou de ceux comme aujourd'hui qu'on entend parfois sans oser demander le sens. Et le mot du jour est « incel ».
Alors oui, on va expliquer aujourd'hui ce qu'est un incel, tout simplement parce qu'on en parle hyper souvent, on n'a pas arrêté d'en parler là pour You, et qu'il n'y a pas tant que ça de gens qui savent ce que c'est en réalité. Par ailleurs, il se trouve que les incels sont les champions du déni de consentement. Si on les écoutait, on couperait la langue aux meufs directes, ça éviterait d'avoir à les écouter et donner leur avis. Incel, pour commencer, ça veut dire involuntary celibate, pardon pour mon accent, qu'on peut traduire par célibataire involontaire. Ça a commencé comme une sorte de communauté online qui s'est développée via des forums, notamment des forums de jeux vidéo. Leur grand discours, c'est qu'ils déplorent vouloir absolument une relation amoureuse et des relations sexuelles et qu'ils ne parviennent pas à les obtenir. Bouh, comme c'est triste. Un petit verre de male tears pour la route. Alors oui, c'est vrai, c'est dur la solitude affective, c'est dur de subir les diktats de beauté et de se faire rejeter, mais voilà. Le problème, c'est que leur jérémiade s'assortisse de tout un discours violemment miso,
en plus d'être raciste, est à l'origine de 8 tueries de masse qui ont causé pas moins de 61 morts quand même. Donc bon, c'est pas si drôle que ça. Concrètement, leur discours consiste à dire que les relations sexuelles sont à la fois un droit et un besoin fondamental, et que la libération des femmes, qui selon eux est totalement accomplie, parce qu'ils jugent que le monde est d'ores et déjà dominé par les femmes et par le matriarcat, ça se voit vachement dans nos gouvernements et dans tous les postes de pouvoir du monde. Donc cette libération-là, selon eux, elle s'est opposée à leurs besoins vitaux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à pécho. Ils comparent cette misère affective à la misère économique et sociale des sans-abri, par exemple, et ils considèrent qu'à cet égard, l'État doit les aider en leur fournissant des femmes, de la même manière que, par exemple, il y a des structures qui fournissent des abris ou de la nourriture sur les deniers publics aux sans-abri, aux SDF, aux personnes dans le besoin. Donc, il faudrait comme ça des vagins du cœur. Donc, les femmes, selon eux, devraient mettre à disposition leur corps. Ça, c'est un dû et elles sont dégueulasses de le garder pour elles. Il ne leur appartient pas. Et chaque individu devrait se voir fournir les moyens d'être dans une relation monogame où la femme reste à la maison, elle est la servante de l'homme et lui est soumise. Donc, c'est vraiment les anciens modèles.
Mais en fait, on est dans la servante écarlate, là.
Mais oui, on est dans les années 50, Mad Men, tous ces modèles-là, ils adorent ça. Eux, ils attribuent absolument tous les problèmes sociaux qu'on rencontre aujourd'hui aux femmes qui refusent de se soumettre, mais aussi aux noirs et aux juifs, hein, tant qu'à faire.
Faut pas déconner.
Bah voilà, hein, mettons tout le monde dans le même panier. Leur pire ennemi, c'est le prototype masculin qu'ils appellent le Chad. C-H-A-D, il est censé incarner dans leur propre tête tout ce qu'une femme veut, parce qu'ils ont, c'est quand même des hommes qui comprennent vachement notre désir, hein, on le remarquera. Donc selon eux, voilà ce qu'on veut, nous. On veut un homme musclé, avec un gros sexe et un gros compte en banque.
Je pense qu'ils ont oublié de nous demander notre avis, en fait, là.
Non mais c'est pas possible, on n'a pas d'avis, chat. Comme ils estiment qu'ils ne ressemblent pas à ça, ils conçoivent du ressentiment vis-à-vis du monde entier, et c'est ça qui a motivé les tueries de masse dont j'ai parlé plus tôt.
Le pire, c'est qu'ils entraînent avec eux toute une communauté de femmes, les Red Pills Women, encore Red finalement, hein, je crois qu'il y a un truc à creuser là-dedans, en référence à la pilule rouge de Matrix qui permet de voir le monde tel qu'il est hors de la matrice. Alors, je crois qu'ils n'ont vraiment pas compris le film.
Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris, à mon avis.
C'est vrai, c'est vrai. Et alors, ces femmes échangent sur un important forum de Reddit sur les meilleures manières de séduire un homme en douceur, et oui, parce que les pauvres petits, de perdre du poids pour mériter un homme et de s'occuper au mieux du foyer domestique. Pour terminer, on met en avant des moyens de lutter dans la région nantaise, à votre échelle et selon les biais qui sont à votre portée. On vous a parlé un peu plus tôt du jeu Sexploration et ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sa créatrice, Claire Vimont, pour mettre le feu aux poudres. Claire Vimont est une designer graphique et illustratrice engagée et féministe. Elle est passionnée par les sciences, la chimie et la biologie, mais après son bac S, elle se lance un peu par hasard à l'école de communication visuelle de Nantes, qu'elle découvre pendant un salon étudiant. Le mieux, c'est quand même de lui donner la parole. Alors on l'écoute tout de suite nous parler de son parcours et de ses engagements. Salut Claire et merci d'avoir accepté cette interview. Alors on va commencer un petit peu par ton parcours.
Salut, merci pour l'invitation déjà. Mon parcours, il est assez simple. Donc j'ai fait un bac S et après je suis partie dans une école de design graphique à Nantes. Donc j'ai créé les jeux Sexploration pour mon projet de fin d'études parce que j'avais envie de créer un outil ludique pour parler de voilà, pour faire de l'éducation à la sexualité. Quand j'ai présenté mon projet au jury, j'ai eu 20 sur 20 et tout le monde me disait qu'il y avait un vrai intérêt. Enfin, je sentais vraiment qu'il y avait un intérêt pour ces outils. Et en plus, quand je les ai créés, on commençait un peu à parler. Donc c'était l'année après MeToo, donc il y avait beaucoup cette question du consentement, il y avait vraiment cette question de bah, comment on va éduquer les jeunes, et en fait surtout il n'y avait pas d'outils pour ça, il y avait beaucoup de livres, beaucoup de BD, mais il n'y avait pas de jeux. Je pense qu'il y avait une vraie attente de la part que ce soit des parents, des professionnels de santé, enfin du public de manière générale, d'avoir quelque chose qui va connecter les gens en fait. Donc après, quand j'ai fini mon master, j'avais envie de faire une petite pause après mes études. Donc je suis partie travailler à Barcelone quelques mois. Et en fait, je suis revenue en France pour essayer de trouver une maison d'édition pour mes jeux, qui sont du coup édités depuis fin 2019. Donc là, ça va faire 2 ans qu'ils sont édités.
Comment tu définis le consentement et en quoi c'est important de parler de consentement ?
Le consentement, c'est vrai qu'au début, je le définissais juste comme l'accord entre deux personnes. Voilà, donc et juste le concept simple. Et en disant que c'était assez simple, que c'était oui ou que c'était non, et que si c'était un peut-être, c'était pas un oui. Et du coup, bah là, justement, en me renseignant de plus en plus et en allant lire de plus en plus de choses, donc il y a des travaux faits par des collectifs, des assos, Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein d'enjeux politiques autour du consentement. Il y a par exemple, il y a Consentis qui fait des super vidéos pédagogiques là-dessus. Et là, par exemple, j'avais pris des petites notes. Donc, je suis allée à un événement d'un collectif qui s'appelle La Chaleur, qui est sur Nantes. Et du coup, dans leur définition du consentement, eux, ils défendent du coup un consentement qui est explicite. Ça veut dire qu'on doit demander le consentement et qui doit être exprimé verbalement et clairement. Qui doit être en amont, c'est-à-dire qui doit être demandé avant l'action et pas pendant ou après l'action. Qui doit être révocable, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut changer d'avis. Il doit être éclairé, ça veut dire faire attention à l'état de conscience de la personne. Est-ce que la personne en état de prendre des décisions? Est-ce qu'elle a pris des substances psychoactives ou pas? Il doit être spécifique aussi, ça veut dire que quand on consent à une pratique, on consent pas à une autre pratique. Quand on consent à une action, on consent pas à une autre, voilà. Donc redemander le consentement à chaque fois qu'il y a une nouvelle pratique, une nouvelle action. Il doit être enthousiaste, ça veut dire que bah, le doute, il peut permettre de laisser le temps de réfléchir, par exemple. Que, en fait, si on doute, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas verbalisé ou qu'on n'a pas conscientisé. Et il est non négociable, ça veut dire que quand on dit non ou peut-être, il n'y a pas à demander mais pourquoi. En fait, c'est juste c'est non. Pour moi, il y a vraiment ce truc de créer une culture du consentement aussi. Et bah, quand on te dit non, de dire genre, bah, merci d'exprimer ton non, en fait, et pas le prendre pour soi, mais de dire bah, si tu me dis non maintenant, c'est super parce que le jour où tu me diras oui, ce sera un vrai oui. Voilà, c'est plein de notions qui n'existent pas. Enfin, il n'y a pas ces codes-là pour moi dans notre culture et notre société. C'est vraiment des codes ouais, du consentement qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se partager et il faut vraiment voilà, en parler autour de soi.
Comme tu as fait pas mal d'ateliers pour présenter tes jeux, est-ce qu'il y a des retours en particulier qui t'ont marqué ?
Il y a un retour qu'on avait fait. En fait, on était plusieurs animés sur cette séquence-là auprès de jeunes. Donc, c'était des troisièmes et des secondes. Et c'était la toute première fois que j'ai testé les jeux avec les jeunes. Et il y a une des ados qui est venue faire un retour à ma collègue qui était avec moi sur le jeu du consentement et qui lui a dit « Ah, c'est marrant, ce jeu, ça m'a fait réfléchir à des situations avec mon copain. Du coup, je suis pas tout à fait sûre de consentir. » Et en fait, là, je me suis dit « Ah ok, il y a vraiment un enjeu à parler de ça dès le plus jeune âge. » Effectivement, quand on parle de consentement, on parle pas que de sexualité non plus. Enfin, le consentement, ça s'exprime tous les jours avec n'importe qui. Et du coup, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et triste parce que je me rends compte qu'il est vraiment nécessaire, ce jeu. J'ai eu aussi, par exemple, une personne qui m'a envoyé un mail en me disant qu'elle était inquiète parce que sa nièce de 16 ans savait pas dire non, enfin, osait pas dire non à son copain, qu'elle avait du mal à exprimer son consentement, etc. Et du coup, je me dis que c'est vraiment des outils qui vont ouvrir des conversations, des discussions au sein des familles, même si, bah, malheureusement, on se retrouve à faire de l'éducation. Enfin, pour moi, une fois que c'est un peu trop tard, en fait, ça devrait vraiment des choses qui devraient être ancrées dans notre éducation, dans notre culture. Et bah, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu à récupérer les pots cassés trop tard, quoi.
Est-ce que tu as des projets à venir ?
Pour ce qui est des jeux d'exploration, là, on va réimprimer la collection de jeux en multilingue, français, anglais, allemand, espagnol. Donc ça, c'est chouette parce que ça va permettre de toucher un plus grand public, à la fois en France, parce qu'il y a des gens qui parlent pas français en France, et à la fois, du coup, à l'étranger. Donc ça, c'est super chouette. Sinon, dans mes projets pro, là, je vais travailler avec SIDA Info Service sur une brochure sur les orientations sexuelles et les identités de genre. C'est en partenariat avec un projet qui s'appelle Tu me plais du ministère de la Santé, donc ça va être chouette.
Cool, bah écoute, on te souhaite plein de nouveaux projets, plein de nouveaux jeux et puis à la revoyure alors.
Merci.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, merci pour ce moment. On vous envoie du love consenti, bien évidemment. Le mois prochain, on continuera à parler des manières dont la société confisque notre droit à aimer notre corps, à le revendiquer et à le vivre selon nos propres codes et nos propres valeurs. L'émission portera sur la grossophobie. Si vous souhaitez échanger avec nous, témoigner, proposer vos propres références, retrouvez-nous sur les réseaux.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.